passa de cupuraído, vai tirando o cupuraído. Por mais milho que caros, te lembram dos abrigos. O nem padar é chiquinho, padar é chiquidara. Грука любить. Не хочу песня напить, хочу так дружка.
En revenant de l'école, avant de faire mes devoirs, je composais quotidiennement un poème. Une première fois, à Paris, le temps est devenu plus rare, mais j'en prenais de larges tranches en partant passer de longues vacances chez mes parents où je me trouvais libre. Ensuite, je suis revenue pour de bon, mais la joie de vivre freinait mon travail. Mon premier roman, je l'ai écrit à 20 ans, me morfondant dans une petite chambre alors que j'aurais préféré courir les forêts. Mais je voulais faire les concours. Au moment où peut-être j'allais me dissoudre dans cette fureur de vivre, je suis tombée malade et j'ai dû faire 3 ans de montagne. Dans le lit, comme sur un bateau, j'avais tout le temps de voguer dans l'imaginaire. C'est alors que j'ai commencé à écrire mes nouvelles. Et les premières gagnèrent un prix. Comme on me demandait toujours des nouvelles, j'ai eu envie d'écrire un roman. Ce fut Théoda, puis Le sabot de Vénus. Et encore un autre qui peut-être ne paraîtra jamais. J'ai commencé à avoir des enfants, et forcément beaucoup moins de temps, ce qui n'a fait que renforcer ma passion d'écriture. Plus le temps est limité, et plus on a des idées. Ou du moins, elles jaillissent au bout du crayon d'une manière beaucoup plus explosive. Il faut compter avec la fatigue, mais elle est aussi parfois aiguillonne. Il m'est arrivé d'écrire mourant de fatigue. Je ne voudrais pas recommencer, c'est extrêmement douloureux. Et j'ai payé cela dans ma chair. Je ne voudrais pas revivre ce que j'ai vécu lorsque je n'avais ni foyer, ni même une chambre à moi. Pendant des années, j'ai dû vivre chez les autres, ce qui nous aidait, Maurice et moi, à élever nos enfants, ce que nous n'aurions pu faire seuls, puisque nos métiers ne nous procuraient pas d'argent. J'ai fait du journalisme dans des conditions dérisoires. « Tu gâches ton talent », me disait Maurice Chapa. Et lorsque je l'ai connu, il me procura une petite somme d'argent pour que je n'écrive plus dans les journaux. J'avais parfois de la chance, des répits et soudain un peu plus de temps.
Evelyne, comment... Pardon, Annette. Bon, un manque de concentration évident là. Annette, comment se fait-il que nous écoutions de la musique russe alors que nous évoquons Corinne Abi, Suissesse du Valais? Tout à l'heure, on a bien choisi une musique bien populaire et là, on écoute de la musique russe.
Alors, comme plusieurs le savent probablement, un des livres qui a été très vite, très diffusé en Suisse romande, ce sont Les Invités de Moscou, qu'elle a écrit d'ailleurs assez tard, en 1976, vers la fin de sa vie. Elle a eu l'occasion de faire un voyage à Moscou. Et elle aimait beaucoup la Russie. Elle raconte d'ailleurs que ses premières émotions littéraires sont liées à la littérature russe, naturellement Dostoïevski, Tolstoï, enfin les grands écrivains de la Russie. Et elle a eu l'occasion, à la fin de sa vie, de voyager dans plusieurs pays. D'ailleurs, autant elle a dû, quand elle était jeune, rester essentiellement entre Paris, où elle a habité quelques temps juste avant la guerre. Et ensuite, elle s'est essentiellement basée en Valais, un petit peu au Tessin. Mais en fait, elle est restée très sédentaire. Et c'est vers la fin de sa vie qu'elle a eu l'occasion de voyager. Un de ses fils habite à Abidjan, en Afrique. Elle a eu l'occasion aussi d'aller le voir. Et elle raconte à quel point cela a été pour elle une révélation, enfin, une ouverture à différents niveaux qu'elle n'avait jamais pu connaître autrement. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose à dire, que sur la fin de sa vie, quand elle était déjà quand même assez âgée, mais sans savoir que la maladie qui allait se déclarer, elle a l'emporté donc très rapidement, elle n'a pas du tout eu l'idée qu'elle allait mourir si vite. C'était pour elle, ça a été un choc. Elle est rentrée d'un voyage, justement, elle s'est alitée et elle est morte d'un cancer. Et pour elle, elle a vécu les dernières années avec beaucoup plus de joie, probablement, que certains autres moments de sa vie où elle a beaucoup plus souffert.
Alors, peut-être, Annette, il est quand même nécessaire de, assez forcément brièvement, mais raconter une sorte de parcours de Corinne Aby, parce qu'on connaît, on croit connaître sa vie avec Maurice Chapin, mais peut-être quelques étapes importantes tu pourrais nous donner dans son existence.
Peut-être d'abord parler un tout petit peu de son enfance. Donc elle est née en Valais, son père était un artiste artisan, en fait il était verrier, il faisait aussi de la peinture, c'était quelqu'un qui avait de la fortune et qui a élevé ses enfants d'une manière extrêmement agréable. Il avait une très belle maison à Sierre, les enfants étaient très gâtés, ils allaient en vacances, bon, en Suisse, à l'époque on n'allait pas tellement ailleurs. C'était un homme extrêmement brillant. Corinne Aby était la seule fille de la famille, il a eu 5 enfants. Elle avait aussi des demi-frères parce que son père s'était marié une deuxième fois avec sa mère. Il avait eu d'autres enfants d'un premier mariage, sa femme était morte. Et Corinne Aby a vécu une enfance extrêmement entourée, agréable, dorée. Elle raconte d'ailleurs que cette maison de son enfance à Sierre s'appelle le Paradou. Et c'est vrai que probablement elle parle très souvent de cette période de sa vie. Ça a été pour elle vécu comme un paradis. L'image de son père aussi l'a accompagnée toute sa vie et a été très très prégnante pour elle. C'est une image d'homme qui est très forte, qui l'a accompagnée tout le temps, tout le temps. Sa mère était donc une jeune femme valaisanne, sans formation et d'une situation sociale pas du tout équivalente à celle de son père. On avait vraiment l'impression que c'était le prince qui épousait la bergère, et ça a beaucoup habité les relations de Corinna avec ses parents. Monsieur Bi, donc, était quelqu'un qui recevait beaucoup de gens. Et notamment, quand Corinna Bi avait donc 20 ans, 25 ans, elle était toujours chez ses parents et elle a eu l'occasion de rencontrer énormément d'artistes, d'écrivains. Notamment, elle a bien connu Bourgeot, l'écrivain vaudois, avec qui elle avait d'ailleurs une liaison sexuelle, affective, qui s'est mal finie pour elle. Elle a aussi d'ailleurs eu l'occasion là de rencontrer un acteur parisien. Et c'est très rapidement qu'elle a décidé de l'épouser, de partir avec lui à Paris. Et ça s'est aussi pour elle très très mal terminé, dans le sens que cet homme n'était pas un véritable mari, comme elle le dit assez pudiquement. Enfin, c'était quelqu'un qui était impuissant et qui a laissé cette jeune femme complètement frustrée sur le plan sexuel. Elle l'a d'ailleurs quittée après 2 ans en ayant beaucoup, beaucoup souffert. Il y a beaucoup de nouvelles qui font rapport d'ailleurs au mariage blanc qu'elle a vécu avec beaucoup de difficultés à Paris. Après cet épisode évidemment assez triste, elle revient en Valais et, comme je le disais tout à l'heure, elle est rentrée avec une tuberculose tenace. Elle a donc dû s'isoler pendant 3 ans à Chandolin, dans un petit mayen, rester très tranquille, rester dans un air soi-disant bénéfique, enfin soi-disant probablement bénéfique pour elle. Et elle s'est guérie. Mais elle s'est guérie après donc une grande fatigue à la fois physique et morale. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'occasion de rencontrer Maurice Chapin, qui a été vraiment pour elle la rencontre qui a déterminé sa vie. Ça a été pour elle, ils se sont mariés assez, enfin ils se sont liés très très rapidement. Leur mariage s'est fait assez tard parce qu'elle était toujours mariée avec l'acteur parisien, qu'elle était catholique. Ça a été quelque chose de très très compliqué. Aujourd'hui, ça paraît un peu dérisoire, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être vécu comme quelque chose de très compliqué, de très difficile. Toujours est-il qu'elle, qui venait d'un milieu quand même catholique pratiquant, elle a eu son premier enfant de Maurice Chapa hors mariage. Et elle s'est mariée, le petit Blaise accompagnait ses parents à l'église. C'est quelque chose qui, à la limite, aujourd'hui, est presque courant, si j'ose dire. Ouais. Mais à l'époque, ça devait être quand même pénible et être douloureux.
Surtout dans un canton comme le Valais.
Oui, c'était pas simple de vivre comme ça. D'ailleurs, Maurice Chapa était quelqu'un qui était connu dans la région valaisanne. Et qui avait d'ailleurs un chanoine comme parent, etc. Quoi.
Elle avait 31 ans, si je calcule bien, quand elle
absolument.
A rencontré Maurice Chapa.
Oui, elle a eu donc 3 enfants avec lui. Et c'était ce moment-là où elle avait envie de toujours écrire, où elle raconte parfois l'imagination est quasiment explosive, mais elle n'avait pas le temps parce qu'elle avait les charges d'éducation. Elle tenait beaucoup à s'occuper de ses enfants. C'était aussi une femme qui n'avait personne pour l'aider, pas de personnel de maison, donc elle devait encore s'occuper de la cuisine, etc., du ménage. Et je crois que Maurice Chapa n'était pas spécialement un homme enclin à l'aider d'emblée. Il avait une autre éducation, une autre vie. Il avait aussi, lui, ce besoin d'écrire, et ça passait avant tout.
Plus des difficultés financières, d'après ce qu'elle vient de raconter.
Et de surcroît, effectivement, il n'avait pas de fortune réelle. De temps en temps, une rentrée d'argent, parce qu'ils arrivaient à vendre par un petit parchet, ou que M. Bi pouvait donner un petit peu d'argent à sa fille. Mais la fortune du père de Corinna Bi a aussi subi des revers, donc elle ne pouvait pas compter, elle, sur des rentrées d'argent par d'autres moyens que la vente de ses livres. Bon, maintenant, aussi bien Maurice Chapa que Corinna Bi sont des gens très connus dans le monde littéraire, pas seulement romans, mais aussi français, mais à l'époque, pas du tout. Et ça a été pour elle, effectivement, une grosse charge physique, j'entends, de temps à donner. Et effectivement, comme je l'ai déjà dit, elle a beaucoup souffert dans sa santé. Elle a souffert d'eczéma tenace, très pénible. Elle a perdu ses cheveux. Elle est devenue une partie de sa chevelure. Elle n'a jamais repoussé. D'ailleurs, on la voit toujours sur les photographies avec un petit capuchon ou un petit foulard. Et ça a été pour elle très grave. C'est comme une mutilation. Il y a beaucoup d'ailleurs de nouvelles qui sont liées à la chevelure. Et c'est probablement dû à la grande souffrance qu'elle a ressentie.
Donc on retrouve dans son travail d'écriture ces souffrances qu'elle a vécues.
Oui, probablement. Et c'est une des choses que j'ai trouvées les plus intéressantes dans cette autobiographie, c'est que ça nous donne justement pas mal d'éléments pour mieux comprendre certains thèmes, certains mythes des nouvelles.
Heureusement, elle sera quand même reconnue à la fin de sa
Alors,
vie, dans le sens qu'elle va
pas. Elle a même obtenu donc le prix Goncourt de la nouvelle quelques années avant sa mort. Et puis, elle a été d'ailleurs l'ambassadrice de la littérature suisse romande dans certains salons de la littérature francophone.
Et puis, je lis qu'elle voyage aussi en Irlande, en Angleterre, en Belgique, parce que Pro Helvetia...
Voilà, justement, dans ce sens-là, elle était l'ambassadrice de la littérature suisse. Ouais. Mais c'était vraiment à la fin de sa vie. Et j'ai vraiment envie ici de dire qu'elle l'a largement mérité et que moi, je suis très, très fière de penser qu'il y a une femme valaisanne qui a eu ce caractère et qui a rédigé des nouvelles ou des poèmes aussi beaux que ceux de Corinna Bi.
Tu voulais nous lire cette fois-ci un texte de Corinna Bi.
Oui, alors je vais peut-être terminer par une nouvelle qui fait partie du volume qui s'appelle « 100 petites histoires d'amour ».
L'era arriva in città con l'automobile.
Les gisants. Elle sur le cœur, lui sur le flanc droit, ils se regardent. Les villes sur lui, les forêts sur elle, ils se gardent. Amants pour l'éternité. Yeux sans larmes, bouche sans baiser, poitrine sans épi, sexe sans fleurs, ils se trouvent enfin. Tu fus mon premier amour, tu es mon dernier. Séparés à jamais, proches pour toujours, ils sont vivants dans l'éternité. Mon sourire répond à ta douceur, ton désir à ma fidélité. époux dormants qui resteront seuls éveillés. D'un bord du monde à l'autre, ils se font signe, amants vivants pour l'éternité.
Que passa qua taran das busalizzi? La ma scrivu proprio in que rivi du mar. Mi metri fiel mari e la cagneta. Veni in vacanza da ti per stacchi 30 di. Dalla cadi so vintan, Juan sono ai campan, l'è una storia che pianger ma fa, ag un grocche ma strozza cui lacrim, ma è lacrim da felicità.
Vous l'aurez bien évidemment deviné, nous avons quitté le monde de Corinne Abbey et nous entrons dans celui de Yongchang qui a écrit un gros livre aussi, Les signes sauvages, que tu nous présentes, Evelyne, ce soir. Yongchang est-elle comme la musicienne qui est en train de jouer d'un instrument très classique chinois et virtuose dans cette musique, une jeune femme, ou est-ce que c'est une personne d'un certain âge ?
Quand elle écrit son témoignage, elle a 40 ans. Elle a 40 ans aujourd'hui. Elle est née en 1952. Elle a écrit ce livre en 1990. Elle avait 38 ans. Mais elle ne l'a pas écrit en Chine. Elle ne l'a pas écrit en chinois non plus. Elle écrit en anglais depuis Londres, où elle s'est fixée depuis 1978. Elle était arrivée à Londres pour faire des études d'anglais avec une bourse du gouvernement chinois. Je pense qu'en 82, cette bourse s'est terminée et à ce moment-là, elle a décidé de rester en Angleterre. Et elle nous dit dans l'épilogue du livre qu'elle avait un tout petit peu peur que ça pose des problèmes pour sa famille, le fait qu'elle choisisse de rester, qu'elle déserte hein, d'une certaine manière, et qu'elle choisisse de rester dans un pays occidental. Et cela a obligé sa mère, qui était fonctionnaire du gouvernement chinois, une fonctionnaire pas trop élevée, mais quand même une fonctionnaire, à prendre sa retraite anticipée. Mais apparemment, sa famille n'a pas été inquiétée parce que, bon, en 1982, beaucoup de choses s'étaient passées déjà en Chine et Mao était déjà mort depuis un certain nombre d'années. Et c'est toujours pas encore à ce moment-là qu'elle a eu envie d'écrire. Elle a eu envie d'écrire, en fait, 10 ans après avoir quitté la Chine, c'est-à-dire en 1988. C'est à l'occasion d'un voyage de sa mère en Angleterre. Sa mère est venue la voir et sa mère lui a raconté sa propre histoire et l'histoire de sa propre mère, c'est-à-dire de la grand-mère de l'auteur. Et ça... Bon, elle a écouté, probablement, elle a même peut-être enregistré ses premiers témoignages. Et ça a déclenché une crise de larmes chez elle et de nostalgie, mais enfin, ça l'a replongée, en fait, dans un passé qu'elle avait laissé de côté et un monde, la Chine, qu'elle avait laissé de côté depuis 10 ans. Elle a eu envie de faire le point, certainement. Et elle se sentait aussi en mesure de le faire du point de vue psychologique. Elle disait qu'elle avait trouvé l'amour, qu'elle avait trouvé sa voix aussi. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, si elle est enseignante d'anglais, ou enfin, je ne sais pas, mais enfin, elle a trouvé une profession. Et elle était heureuse et elle avait envie de faire le point sur ce passé chinois. Elle a donc écrit en anglais, il a été traduit en français, il est publié chez Plon. Donc c'est un gros bouquin, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais la Chine est un gros pays aussi, et avec la population qu'on sait. Et l'histoire du XXe siècle de la Chine, qui est un peu l'histoire que recouvre ces trois générations de femmes, la grand-mère, la mère et la petite fille, ça vaut bien 500 pages. Et bien sûr qu'on n'en a encore que des aspects très... partielle de cette histoire. Mais quand même, on a beaucoup de renseignements. Je voudrais dire aussi que il ne s'agit pas seulement d'un témoignage sur une famille. Je pense que pour comprendre beaucoup d'événements, il fallait que l'auteur se réfère à l'histoire même du pays. Donc elle a fait de grandes recherches et c'est un livre d'histoire aussi. Il faut aimer l'histoire et il faut aimer la politique, je dirais, pour s'y accrocher et le lire jusqu'au bout.
Donc on découvre le destin de tout un pays en même temps que le oui. destin de ces trois femmes, finalement.
Oui, et avec, disons, une accentuation sur la période maoïste, à partir de la fondation de la République de Chine populaire. Et on s'arrête en 1978. Elle le dit dans un épilogue à la fin, le pays a bien changé. Depuis cette période-là, donc depuis 1978, il a changé dans son système de gouvernement, dans le sens qu'il n'y a plus un personnage auquel on voue un culte de la personnalité intense comme on a fait avec Mao. Donc les nouveaux dirigeants, bien qu'ils ont été formés pendant la période maoïste, on ne leur rend plus un culte comme on le faisait par rapport à Mao. Il y a, enfin, les frontières s'ouvrent, il faut faire du commerce international, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que bien des règlements se sont assouplis et l'existence est probablement beaucoup moins réglementée qu'auparavant, que dans la période dont elle nous parle. Et par exemple, elle dit qu'elle peut téléphoner sans autre en Chine, que sa mère lui envoie des fax depuis la poste, des choses qui étaient parfaitement impossibles à l'époque où elle a grandi en Chine.
Mais pourquoi, alors explique-t-elle quand même un peu plus en détail, pourquoi alors elle a voulu rester en Angleterre ?
Ça, je pense que je me suis demandé ça aussi, et peut-être ça fera l'objet d'un deuxième livre, parce que ça a été pour moi une grande question de me dire, mais comment elle s'est intégrée ? Elle était très chinoise quand même, parce qu'elle avait vraiment d'abord une connaissance pratiquement nulle des pays occidentaux avant de venir. Elle avait lu, il y avait une tradition dans sa famille de bons lecteurs. Tout le monde lisait beaucoup et ils ont beaucoup lu de la littérature étrangère. Ils lisaient de la littérature française, traduite sûrement en chinois, de la littérature russe, anglaise, américaine. Elle parle d'ailleurs, elle cite des auteurs, on voit qu'elle a lu ça, mais son père aussi l'avait fait. Mais c'est encore qu'une connaissance très livresque qu'elle avait des pays occidentaux. Et les renseignements qu'elle pouvait avoir, enfin, c'était très peu de temps avant, par exemple, son voyage en Angleterre, qu'elle a lu son premier article dans Newsweek, un numéro comme ça, qu'on ne sait pas très bien comment il était arrivé à la bibliothèque de sa faculté. Et elle a pu lire un article qui était d'ailleurs consacré à Mao et sa famille. Et puis on se dit, bon, elle a peut-être jeté un coup d'œil sur d'autres articles qui donnaient des idées. Mais enfin, elle avait aucune notion. Donc, comment elle s'est intégrée ? C'était une femme très libre et très rebelle, très jeune. Donc, elle a certainement beaucoup apprécié la liberté de mouvement, enfin, je ne sais pas, d'expression, etc., qu'on peut avoir ici par rapport à ce qu'elle avait connu en Chine. Mais ça, il faudra qu'elle le raconte si elle a envie dans un autre livre, parce que de ça, on ne trouve rien dans Les Signes Sauvages.
Evelyne, tu pourrais peut-être nous préciser, alors qu'on ait quelques points de repère temporels dans la tête, la grand-mère, la mère et la fille racontent leurs histoires à quel moment de l'histoire de la Chine ? Est-ce que la grand-mère a connu encore la vieille impératrice ou bien est-ce qu'elle a connu la longue marche ? Enfin, comment vieille est-elle ? Parce qu'il y a des civilisations, c'est plus très bien qu'est-ce que ça veut dire être vieille. Si quand on se marie à 15 ans, on est vite vieille dans certaines cultures.
La grand-mère est née très peu de temps avant la fin de l'Empire, dernier empire, ou du dernier système impérial chinois. Enfin, façon de parler, parce que le système maoïste avait bien des côtés impériaux aussi. Mais ça, c'est une parenthèse à fermer pour le moment. La grand-mère est née en 1909. Elle est née donc 2 ans avant la fondation de la première république chinoise. Et elle a baigné tout à fait encore dans la société traditionnelle chinoise. Elle a eu les pieds bandés. Et j'aimerais bien tout à l'heure expliquer, comme nous l'explique l'auteur, ce que ça a signifié d'avoir les pieds bandés. Elle a été tout à fait. Elle est baignée dans le système traditionnel.
Quelli che abbiamo sentito erano il Casino Royale, un gruppo italiano che ha da poco suonato a Bellinzona e che è un po' considerata l'ultima rivelazione dell'underground italiano. La loro formazione è fondamentalmente jazz, sanno suonare perciò tutti molto bene, ma al momento sono i fautori del revival ska. In generale, comunque, appunto, ricordando il concerto di Bellinzona, i loro spettacoli sono veramente travolgenti, affascinanti e scatenanti.
Scatenanti come le proteste di questi studenti, infatti la scarsa considerazione, una maggiore partecipazione nel mondo scolastico, più democrazia, migliori rapporti con i docenti, una scuola se vogliamo meno disumanizzata e nozionistica. Ecco, sono queste le rivendicazioni degli studenti liceali del Canton Ticino.
È indispensabile lottare contro ogni genere di ingiustizia, protestare decisi ed incuranti delle critiche che non siano oggettivamente costruttive, ma unicamente pretesti per mascherare problemi veri che non si vogliono risolvere. Basti citare chi stupidamente scriveva di strumentalizzazione della manifestazione dei principali gruppi. Critiche avanzate proprio da coloro i quali dovrebbero invece dare spiegazioni plausibili a proposito del fatto che se di strumentalizzato c'è qualche cosa è proprio un insegnamento. Con le macerie di quello che avrebbe dovuto essere un liceo arricchente culturalmente è stata costruita una fabbrica di pezzi volgarmente uguali. Una catena di montaggio che plasma e ridimensiona la maggior parte degli individui, che non permette loro di sviluppare le qualità personali. Lo studente deve terminare il liceo presentando le caratteristiche principali del modello che il potere economico primo fra tutti ha precedentemente costruito. Non a caso l'ordinanza federale RM perfettamente o quasi consona le fondamentali esigenze delle banche ed assicurazioni. Lottiamo per costruire un liceo più vivo, al passo con i tempi, che invece di offuscarle e sminuirle esalti le nostre qualità personali, le quali unite potranno certamente aiutare nel risolvere la moltitudine.